This is Radio Free Europe.
Minutos en Colombia.
France Inter, le 18-20.
Le 18-20, ce soir en Israël. Israël qui célèbre ce lundi le début de la guerre des six jours. C'était il y a 50 ans aujourd'hui. Nous serons également à Washington. Trump et le climat, ça continue. Trump et le FBI aussi, avec l'audition très attendue jeudi de James Comey. 18h55, l'édito d'Anthony Bélanger sur les rapports toujours très compliqués entre la Russie et le Japon. Mais d'abord, la Grande-Bretagne face au défi du terrorisme islamiste.
Michaël Thébault, un jour dans le monde.
Londres, avant-hier, samedi soir, il aura fallu 8 minutes seulement à la police britannique pour localiser et finalement abattre les trois terroristes. 8 minutes de cauchemar durant lesquelles ces trois hommes auront réussi à tuer 7 personnes en blessant 48 autres. Mode opératoire que l'on commence hélas à connaître. D'abord une banale camionnette jetée sur la foule de piétons, puis les terroristes qui courent dans la rue, couteau à la main, poignardant à l'aveugle tous ceux qu'ils croisent. C'est le troisième attentat en moins de 3 mois sur le sol britannique. Troisième revendication par le groupe État islamique. Bonsoir Pierre Conessa.
Bonsoir.
Ancien haut fonctionnaire du ministère de la Défense, auteur de Dr Saoud et Mr Jihad, la diplomatie religieuse de l'Arabie Saoudite. Vous êtes en direct de France Bleu Azur à Nice. Alors, je le disais, la Grande-Bretagne frappée 3 fois en moins de 3 mois par Daesh. Est-ce que ça signifie, à votre avis, que le Royaume-Uni est devenu une cible privilégiée du groupe État islamique? Et si oui, pourquoi?
Je ne suis pas convaincu qu'il faille en conclure quelque chose qui soit très spécifique à la Grande-Bretagne. Cet hiver, on avait des attentats en Allemagne, là on en a en Grande-Bretagne. Il y a malheureusement pas de géopolitique de l'action terroriste salafiste djihadiste, si ce n'est le fait qu'évidemment sont principalement ciblés les pays qui participent à la coalition internationale.
On a parfois utilisé cette expression de terrorisme low cost. D'abord, que pensez-vous de cette expression? Et après, que faire contre ce type de terrorisme?
C'est un terrorisme low cost parce qu'effectivement, il ne suppose pas une très grosse logistique d'organisation. Malheureusement, ses effets, et on est bien placé à Nice pour l'avoir vécu, peut être extrêmement meurtrier, puisque le 14 juillet, rappelez-vous, on était à 90 morts avec un camion qui fonçait dans la foule. Donc le low cost est une notion qui est plus organisationnelle, si vous voulez, que financière. Malheureusement, aujourd'hui, les instructions d'Al-Adnani, le porte-parole de Daesh, étaient assez claires. C'était n'importe quoi, n'importe comment, sur n'importe qui. Bon. Et donc, on est effectivement dans du terrorisme low cost. Ce qui pose problème, c'est quand même qu'on n'a jamais eu un individu qui agissait véritablement tout seul. Il y a toujours eu une logistique d'assistance à tous les attentats, quels qu'ils soient. Et les enquêtes le montrent en général, malheureusement, après.
Mais c'est quasi impossible de se prémunir contre ce type d'attaque. Qu'est-ce qu'on peut faire? On ne va pas sécuriser chaque mètre carré d'espace public, c'est impossible.
Non, je suis assez d'accord avec vous, c'est impossible d'empêcher ce genre d'attaque. C'est pourquoi il faut s'interroger sur les modalités d'organisation et de soutien. Moi, j'ai toujours été convaincu que, justement, et les enquêtes en France l'ont prouvé sur tout ce qui s'est passé depuis 2 ans et demi, à chaque fois qu'un attentat s'est passé en France, il y a toujours eu des formes d'organisation de ces cellules dormantes qui parsèment aujourd'hui la France, comme la Grande-Bretagne d'ailleurs, et qui ont fourni une assistance parcellisée, si vous voulez, entre de nombreux individus, de façon à ce que chacun ne puisse pas être totalement impliqué dans l'organisation de l'attentat. Ça va être une voiture qu'on va prêter, un logement qu'on va offrir. Ça va être, si vous voulez, des gens qui sont des salafistes convaincus, mais qui vont toujours pouvoir prétendre à la justice qu'ils n'étaient pas au courant. Or, c'est véritablement ça qui est la base de la cellule dormante, qui fait que ce genre d'attentat, au moment où un individu est suffisamment convaincu, va pouvoir recevoir toute l'assistance pour que ça se réalise. Donc, si on se contente de réagir à l'acte de violence, on ne pourra jamais empêcher, si vous voulez, le renouvellement de ce genre de scénario, malheureusement.
D'où l'importance du renseignement, évidemment.
Oui, c'est vrai, d'où l'importance du renseignement, mais aussi d'où l'importance de la politique. Si vous voulez, si on continue à faire du discours du genre l'islam radical, les musulmans intégristes, sans qualifier l'ennemi, c'est-à-dire en l'espèce le salafisme, c'est-à-dire si on ne fait pas cette distinction que beaucoup de musulmans demandent, c'est-à-dire la distinction entre l'islam et le salafisme, on restera toujours dans une espèce de non-dit politique. Et si on ne dit pas précisément quelle est la cible qu'on vise, on restera toujours avec quelque chose qui donnera le sentiment à beaucoup de Français de culture musulmane qu'on ne veut pas voir la chose. Moi, vous savez, en 2014, je faisais un rapport sur la politique de contre-radicalisation Et c'était les élites de la communauté française musulmane qui m'alertaient en disant « Mais on sent la montée du salafisme dans nos mosquées, on alerte les autorités ne viennent rien entendre. » Et il a fallu attendre janvier 2015, c'est les attentats contre Charlie, pour que M. Valls, pour la première fois, parle du salafisme.
Vous restez avec nous, Pierre Conessa, mais on retrouve tout de suite notre correspondant permanent à Londres. Bonsoir Antoine Gignot.
Bonsoir.
Alors d'abord Antoine, y a-t-il de nouveaux éléments ce soir du côté de l'enquête ?
De nouvelles arrestations en tout cas et de nouvelles perquisitions puisque les hommes de la brigade antiterroriste se sont rendus aujourd'hui à deux adresses dans l'est de Londres, la première à East Ham avec selon Sky News au moins une arrestation. La chaîne publie la photo d'un homme barbu, torse nu, emmené par les policiers, puis la deuxième près du quartier de Barking où 11 personnes ont déjà été arrêtées hier et sont toujours en garde à vue. C'est aussi dans ce quartier qu'aurait vécu l'un des terroristes surnommé Apps qui aurait travaillé pour les transports publics londoniens puis dans une salle de sport. Les voisins affirment qu'il l'avait signalé à la police il y a deux ans après l'avoir entendu tenir des discours radicaux à des jeunes. Et puis en parallèle, il y a cette piste remontée par les enquêteurs, cette carte d'identité irlandaise trouvée sur le corps d'un autre terroriste. Il pourrait s'agir, expliquent les policiers, d'un Marocain marié à une Écossaise qui aurait vécu à Dublin.
Et y a-t-il, Antoine, de nouvelles mesures en matière de renforcement de la sécurité ?
Beaucoup de nouvelles mesures. Pour ce qui est du niveau d'alerte, il reste au stade sévère, il n'est pas monté d'un cran. En revanche, dans les rues, il y a un vrai changement avec plus de policiers que d'habitude et puis des barrières de sécurité autour de Buckingham et du château de Windsor et surtout ces blocs de béton, ces rambardes de parpaings et de métal qui ont été installés le long de la chaussée sur les ponts de Waterloo, Lambeth et Westminster pour protéger les trottoirs. C'est un dispositif qui avait été envisagé il y a quelques semaines, mais la City of London, dirigée par le maire de Londres, avait finalement renoncé la semaine dernière à le mettre en place. Une polémique de plus sur la sécurité dans la capitale anglaise, déjà secouée par les échanges politiques autour de Jeremy Corbyn et Theresa May. Le leader du parti travailliste accuse la première ministre conservatrice d'être à l'origine des manques de la police puisque lorsqu'elle était ministre de l'Intérieur du gouvernement Cameron, elle a été chargée de supprimer 20 000 postes dans la police. L'équation est simple pour Jeremy Corbyn. S'il y a eu 3 attentats en 3 mois, c'est parce qu'il y a eu une déficience, c'est parce que les policiers n'étaient pas assez nombreux et ils demandent la démission, la tête de Theresa May.
Antoine Gignot, en direct de Londres, merci. Pierre Conessa, vous avez entendu cette déclaration de Theresa May qui mentionnait dès hier la nécessité d'en finir avec, je cite, un certain laxisme britannique, et je la cite plus précisément encore, il y a, soyons francs, beaucoup trop de tolérance pour l'extrémisme dans ce pays, a dit le Premier ministre britannique. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Je pense qu'effectivement, Madame May met malheureusement un peu de temps à constater ce que nous, Français en tout cas, constatons depuis longtemps. Il faut penser quand même qu'il y a une dizaine d'années, il existait ce qui s'appelait le Londonistan, c'est-à-dire on avait accueilli sous statut de réfugiés politiques des gens qui étaient pourchassés dans leur propre pays, en Jordanie, au Yémen, etc., pour des actes terroristes, mais à qui la Grande-Bretagne avait offert l'asile politique parce qu'ils risquaient d'être torturés ou condamnés à mort chez eux. Bon. Donc on a accueilli, et en Angleterre avant tout, des terroristes, des gens qui étaient effectivement des gens violents, qui avaient soit parfait la guerre en Afghanistan, soit qui avaient été poursuivis pour des faits de terrorisme. Ce Londonistan était un espèce de vivier autour de la mosquée de Wilton Park qui était véritablement stupéfiant. Moi, je me souviens d'avoir assisté à des prêches à Hyde Park Corner, vous savez, où le type amène une caisse, il monte sur sa caisse et il commence un discours, mais qui était d'un antisémitisme, d'un racisme, d'une haine qui, en France, n'aurait jamais pu se passer. Bon. Or, les Britanniques ont cette habitude de dire qu'on ne peut pas brider la liberté de parole, ce que je trouve personnellement tout à fait discutable. Deuxième remarque, les Britanniques ont accepté une forme de communautarisme dont le slogan était, adressé aux salafistes, « Respectez nos lois, nous respecterons votre foi ». Mais le problème, c'est qu'après les attentats de 2005, ils se sont rendus compte qu'il y avait des quartiers qui étaient tellement ghettoisés qu'on pouvait y vivre sans aucun contact avec la société britannique. Et donc, arriver à voir des gens qui étaient naturalisés mécaniquement britanniques, mais sans parler un mot d'anglais, ça a été déjà un gros choc. Et donc, je suis très heureux que Madame May commence effectivement à mesurer l'étendue du problème. Cela dit, j'ai regardé le site du Parti travailliste, juste avant de venir, il n'y a pas un mot sur le terrorisme.
Alors, Theresa May...
On est, on est dans une situation qui est assez proche de celle qu'on a connue avec Mélenchon ou avec Madame Artaud. Vous savez, Mélenchon disait, il ne faut pas parler de religion. Et Nathalie Artaud, elle accusait le grand capital. Donc on est un peu dans cette même, si vous voulez, angélisme d'extrême gauche.
Alors, Theresa May a tout de même aussi appelé à réviser la stratégie antiterroriste. Elle a donné deux pistes. Un meilleur contrôle d'Internet, cet espace où se développe l'idéologie islamiste, a-t-elle dit. Et puis davantage de pouvoir aux forces de sécurité. Elle a notamment rallongé les délais de détention en matière de terrorisme. Est-ce que ça va dans le bon sens tout de même? Là, on sent que ça bouge.
Oui, mais si vous voulez, premier point, Internet. Moi, j'ai fait une étude sur la communication francophone de Daesh. Pour une raison assez simple, c'est que nos jeunes concitoyens qui partent en Syrie ne sont ni arabophones ni anglophones. Bon. Or, Daesh est un formidable communicant. C'est une entité qui communique en 11 langues et avec une philosophie qui est très différente de celle d'Al-Qaïda. Al-Qaïda, c'était des longs prêches de Ben Laden, de Zawahiri, etc. Daesh, c'est le jeune combattant qui parle à ses congénères, à sa bande, à son quartier. C'est-à-dire, on a appelé la mythologie du combattant heureux, parce que Al-Qaïda, c'était « deviens un bon musulman, tu viendras faire le djihad ». Daesh, c'est « viens faire le djihad, tu deviendras un bon musulman ». Tout ça, ce sont des analyses, si vous voulez, de la logique de communication de Daesh. On s'est ensuite posé la question simple, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut avoir des exemples de cas de gens qui sont passés à l'acte en s'étant simplement radicalisés sur Internet? Il n'y en a aucun. C'est-à-dire les gens peuvent se radicaliser, mais c'est le coup de main que vont fournir ces cellules qui aujourd'hui existent en France, on les a identifiées. Hein. La Méno, Strasbourg, Toulouse-le-Mirail, le Butte-Chaumont, Artigate, etc. Où les gens vont trouver, si vous voulez, la logistique ou éventuellement le coup de pouce qui va les convaincre de passer à l'acte. Et si on ne s'attaque pas à ces cellules souches, ce qui semble être l'idée de Madame Theresa May, on n'arrivera pas à empêcher et à réduire ce niveau de violence.
Quel est le lien, Pierre Conessa, entre ce type d'attentat et la lutte contre le groupe État islamique, justement sur le terrain, en Syrie et en Irak?
Écoutez, moi j'ai toujours pensé que le problème de l'État islamique, de Daesh, n'était pas le problème des Européens. Parce que aujourd'hui, vous avez au Pakistan, en Afghanistan, en Syrie, en Irak, au Yémen, à Bahreïn, au Liban et même au Nigeria, une guerre sunnite-chiite. Bon. Cette guerre sunnite-chiite, c'est une guerre de religion, il faut l'appeler par son nom. Or, nous ne sommes pas musulmans, c'est-à-dire que notre légitimité à intervenir dans cette guerre est totalement nulle. Le résultat de tout ça, c'est que quand vous regardez le bilan pour la France, nous avons eu 240 morts et 900 blessés en France sur le territoire et pas un seul soldat tué là-bas. Donc le terrorisme est une arme de la guerre asymétrique. Si on ne se pose pas la question comme ça, on expose notre territoire à des interventions extérieures dans lesquelles nous n'avons aucun enjeu de sécurité. Donc c'est une réflexion que moi personnellement je trouve qu'on n'a pas menée à son terme, et c'est pas parce qu'on y est qu'il faut poursuivre. Si aujourd'hui on estime que c'est la question des pays musulmans de découvrir ce qu'on a mis un siècle à découvrir, c'est-à-dire la tolérance religieuse, on ne peut malheureusement pas les aider. Donc il faut s'en retirer.
Information importante de la journée, on l'évoquait dans le journal de Florence Paracuello, c'est à 18h, trois monarchies du Golfe, l'Arabie Saoudite, que vous connaissez bien, les Émirats Arabes Unis, Bahreïn, plus l'Égypte et le Yémen, qui ont officiellement rompu leurs relations diplomatiques avec le Qatar. Qatar qu'ils accusent de soutenir le terrorisme. Comment analysez-vous cette décision?
Je crois qu'on est à nouveau dans une dimension de problème intra-musulman. L'Arabie Saoudite avait largement accueilli les frères musulmans quand Nasser les a persécutés, et donc ils ont constitué, si vous voulez, ils ont membré toute l'administration saoudienne. Jusqu'à 91, c'est-à-dire la guerre du Golfe, où à ce moment-là, ayant dénoncé l'attitude des Saouds d'en appeler aux Américains pour défendre le pays, la rupture a existé à ce moment-là entre l'Arabie Saoudite et les frères musulmans. Et depuis cette époque-là, l'Arabie Saoudite considère que les frères musulmans sont des ennemis. Bon. Quand ils ont été portés au pouvoir par toutes les révolutions du printemps arabe, ça a été un choc en Arabie Saoudite. Et rappelez-vous l'attitude de l'Arabie Saoudite en Égypte, plutôt un militaire qu'un frère musulman. Et aujourd'hui, le Qatar est donc le seul pays qui continue à soutenir les frères musulmans, ce qui est déjà un motif d'irritation pour l'Arabie Saoudite. C'est un pays qui ne veut pas suivre le grand frère saoudien dans toutes ses prises de position. Et donc vous retrouvez, et en plus, dernière chose, pardon, le Qatar essaye d'avoir une politique d'équilibre entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Bon. Et donc vous retrouvez finalement dans ces pays qui vont couper leurs relations diplomatiques avec le Qatar, l'Égypte, le président du Sisi, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis qui ont un contentieux avec l'Iran, effectivement, etc., etc. Le Yémen, évidemment, ça on le comprend, puisque c'est l'exemple même de la guerre complètement ignoble qu'on ne couvre pas, nous, Européens, parce qu'on veut pas se fâcher avec l'Arabie Saoudite. Donc, si vous voulez, on est dans une querelle intra-musulmane, encore une fois, dans laquelle il faut observer la plus grande distance. Maintenant, j'ai peur que les Américains, eux, par contre, Et le président Trump est un individu totalement imprévisible en matière de politique internationale. Prennent fait et cause pour l'Arabie Saoudite dans un conflit qui risque encore en plus de s'envenimer.
Merci beaucoup, Pierre Conessa. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, Dr Saoud et Mr Jihad, la diplomatie religieuse de l'Arabie Saoudite. Et merci beaucoup aux équipes de France Bleu Azur à Nice qui ont permis cette discussion. Dans un instant, direction Jérusalem. Mais d'abord, Nick Waterhouse, This is a Game. This is a game, Nick Waterhouse.
20 horas, 4 minutos.
BBC's Brian Hanrahan.
Buenos días, comienzan las comparecencias.
Thanks so much for that report.
Ailleurs dans le monde, avec vous, Olivier Poujade, bonsoir.
Bonsoir, Mickaël.
Alors, il y a 50 ans, jour pour jour, Olivier, Tzahal déclenchait la guerre des six jours.
Une attaque préventive de l'armée israélienne pour répondre aux manœuvres militaires autour de son territoire et au blocage du port d'Eilat, ordonné par le leader égyptien Nasser. La stratégie prônée par le chef d'état-major de l'époque, le futur premier ministre israélien, Yitzhak Rabin, cette stratégie se révèle être d'une grande efficacité et depuis cette date, la Cisjordanie reste sous occupation, la colonisation s'est massivement développée et Jérusalem reste une ville divisée après son annexion par les Israéliens. Bonsoir Étienne Menin.
Bonsoir Olivier.
Correspondant de France Inter à Jérusalem, comment est-ce que la société israélienne célèbre cet anniversaire, Étienne ?
C'est à la fois une affirmation et une revendication. L'affirmation vient de la majorité visible, elle est incarnée par la coalition en place. Elle réaffirme à l'occasion de cet anniversaire la souveraineté israélienne sur Jérusalem. La guerre des six jours constitue pour elle la libération de la ville. La revendication, elle, vient du camp de la paix. Il a manifesté la semaine dernière à Tel Aviv. Il est focalisé sur l'occupation, la colonisation et les dérives qui en découlent. La société israélienne est donc divisée. Le rapport rapport de force est déséquilibré en faveur du camp nationaliste, malgré le discours alarmant des opposants à l'occupation, dont fait partie l'infatigable et très documenté Daniel Sedman, avocat à Jérusalem.
La société israélienne ne se confronte pas avec ce qui est le plus grand péril existentiel qui menace le peuple juif aujourd'hui, le risque d'une occupation perpétuelle. Netanyahou et son gouvernement visent la société civile et les institutions, la presse, la justice, tous ceux qui dans le pays ou à l'étranger mettent un miroir face à la société israélienne pour lui dire « Non, Jérusalem n'est pas unie. Non, ça n'est pas viable. C'est une occupation. Et l'occupation est la menace la plus importante aujourd'hui pour l'avenir d'Israël. »
Et comment Israël envisage aujourd'hui la suite 50 ans après le début de l'occupation, Étienne ?
Bien, la politique du Premier ministre est difficilement lisible. Benjamin Netanyahou est fortement critiqué en Israël pour piloter à vue, avec comme préoccupation première son maintien au pouvoir. Mais au-delà, il y a dans toute une partie du pays une réticence à envisager un retrait de la Cisjordanie, avant tout pour des préoccupations sécuritaires, dit Freddy Etan, ancien ambassadeur, membre d'un institut présidé par un proche de l'actuel Premier ministre.
Il y a évidemment dans l'aspiration légitime des Palestiniens de créer un État, mais pour l'instant, on ne voit pas une situation qui, du jour au lendemain, offrirait aux Palestiniens un État souverain sans les conditions sécuritaires, sans les gages que nous avons connus. Et il est important, pour ne pas gâcher une nouvelle fois, pour ne pas avorter un nouveau plan comme on a vu avec Oslo, mais il s'agit de changer complètement le projet. Je dirais un plan Marshall, dans le sens du plan Marshall que les Américains peuvent investir au Proche-Orient et surtout en Cisjordanie et dans la bande de Gaza.
Depuis 50 ans, la colonisation a également fortement progressé. Quelle est aujourd'hui l'influence des colons sur le plan politique ?
Leur parti a un nombre limité de députés, mais ils ont trois ministères importants dans la coalition et leur idéologie a fortement progressé dans la société ces trois dernières années. Les nationalistes religieux qui représentent les colons incarnent depuis la guerre de 1967 le nouveau visage du sionisme. Ils pèsent également sur la ligne idéologique du Likoud, le parti de la droite traditionnelle qui s'est transformé ces 10 dernières années. Sheva Stern est l'un des premiers colons à être entré au Likoud pour faire un travail de lobby. Il estime aujourd'hui qu'il n'y a plus de débat au sein du parti sur la colonisation.
Non, définitivement non. Il y a un large consensus sur le fait de renforcer les implantations et de les épauler. Pour des raisons nationales et de sécurité, les discussions portent seulement sur le calendrier et sur l'ampleur du développement. Mais il y a un consensus fort sur la nécessité et sur l'importance des implantations. Pour résumer, au sein du Likoud, il y a un accord général sur le fait que ces implantations doivent rester là et qu'elles resteront là.
Et cette évolution imprègne la société. Le dernier sondage du très sérieux Institut pour la démocratie israélienne souligne deux tendances. La moitié des Israéliens pensent que la colonisation n'est pas un obstacle pour la paix et les deux tiers des juifs israéliens, c'est-à-dire en dehors de la population arabe, considèrent aujourd'hui qu'il est impropre de parler d'occupation pour le contrôle de la Cisjordanie.
Merci Étienne Menant, correspondant de Radio France à Jérusalem.
Et à 18h41, direction maintenant la Chine, Olivier, pour une autre commémoration.
Dans la nuit du 3 au 4 juin 1989, les militaires chinois ouvrent le feu en direction des manifestants du mouvement pro-démocratie sur la place Tiananmen de Pékin. Une image, Michael, restera comme le symbole de cette confrontation, celle d'un homme debout, seul, face à une colonne de chars. Une scène immortalisée par Jeff Weidner, photojournaliste américain qui se souvient de la violence qui régnait ce jour-là sur la place centrale de Pékin dans une interview accordée au site d'information d'Al Jazeera.
Je n'étais pas sur la place lorsque j'ai pris la photo de l'homme du tank. J'étais au sixième étage de l'hôtel Pékin avec un objectif longue distance. C'est ensuite que je me suis rendu sur le boulevard Chang'an, près d'une colonne de camions qui transportait des soldats. Et quand ils ont ouvert le feu, je me suis mis à courir. Mon téléobjectif avec lequel j'avais pris la photo s'est éclaté sur le sol. Et pendant que je courais, j'imaginais les balles me transpercer le dos et ressortir par mon estomac. J'étais persuadé que j'allais mourir. Les coups de feu partaient dans tous les sens, devant moi, derrière moi. Et puis je suis tombé sur l'ambassade des États-Unis. J'ai vu le drapeau et je me suis dit que je pouvais être sauvé.
Tiananmen, événement majeur de l'histoire contemporaine chinoise, mais 28 ans plus tard, les autorités refusent d'y faire référence. Ce soulèvement n'a jamais existé, aucun bilan officiel de victimes n'a d'ailleurs été communiqué. Les familles continuent donc de se battre aujourd'hui pour la mémoire de leurs proches. C'est le cas de cette mère dont le fils est mort en 89 à Tiananmen et avec laquelle notre correspondante à Pékin, Dominique André, a pu s'entretenir.
Jiang Songlin est une dame de 80 ans. Elle était ingénieure au ministère de l'Espace en 89 quand éclate le mouvement pro-démocratique sur la place Tiananmen. Son fils de 17 ans a été tué par l'armée populaire de libération qui a tiré sur les jeunes manifestants sur ordre de Deng Xiaoping, l'homme de l'ouverture économique de la Chine.
Il y a trois choses qu'on veut. La première, c'est la vérité. La deuxième, c'est la liste des morts. Que les familles des victimes soient dédommagées et que des excuses soient faites. La troisième, c'est que les responsables soient jugés. En conclusion, vérité, indemnité et responsabilité.
Les larmes puis la colère ont fait place à une volonté que rien n'arrête. Jiang Xiangling n'a peur de rien et surtout pas de la police qui la harcèle depuis 28 ans.
Ils nous surveillent depuis 28 ans. La manière de le faire a changé. Au début, ils étaient discrets, puis ils ne se sont plus cachés. À un moment, c'était très dur, on était traités comme des hors-la-loi. Puis les policiers ont compris pourquoi on lutte contre le gouvernement. Ils ont eu de la compassion. Le gouvernement a changé de tactique. On est surveillé pendant les grands événements, comme l'Assemblée populaire, la fête des morts, le 4 juin, les Jeux olympiques en 2008, ou encore de grands congrès internationaux, comme le Forum des routes de la soie qui vient d'avoir lieu. En ce moment, les membres importants de notre groupe, des maires de Tiananmen, sont suivis dans la rue.
La vieille dame puise sa raison de vivre dans le groupe des maires de Tiananmen qui lutte malgré leur âge.
Ce qui s'est passé il y a 28 ans, c'est inoubliable pour chaque famille et chaque personne qui a été blessée. On a été très tristes, on a trop laissé couler nos larmes. Mais maintenant, on ne pleure plus. La colère est enfouie dans nos cœurs. On veut que ce qui s'est passé le 4 juin soit reconnu. On veut que justice soit faite. Aujourd'hui, nous sommes plus déterminés qu'hier.
Hier, Jiang Xiangling est allé se recueillir sur la tombe de son fils. Les policiers l'ont encadré jusqu'au cimetière. Il n'y a pas de répit pour les parents des manifestants de la place Tiananmen.
Dominique André, notre correspondante à Pékin, sujet réalisé, Michael, avec des sons d'archives dont la diffusion est encore aujourd'hui interdite sur le territoire chinois.
Olivier Poujade, merci beaucoup.
The 45th President of the United States of America, Donald J. Trump.
Un jour dans le monde.
And God bless America.
Sur France Inter.
Et comme chaque lundi, direction maintenant les États-Unis, Trump à la Maison-Blanche. Bonsoir mon cher Frédéric Carbone en direct de Washington.
Bonsoir Michael, bonsoir à tous.
Alors on parle encore beaucoup chez vous hein, de la sortie de l'accord de Paris sur le climat jeudi dernier. Et si l'objectif pour Donald Trump était de ressouder sa base, eh bien c'est plutôt réussi hein.
Absolument. Et celui qui le dit, c'est un responsable local républicain que j'avais déjà rencontré pendant la campagne électorale, donc il y a plusieurs mois, et qui n'était à l'époque pas du tout convaincu par Donald Trump. Matt Ames dirige le parti dans un comté aisé de Virginie, en banlieue de Washington. Il était plutôt embarrassé par la rhétorique enflammée de Donald Trump, mais ce qu'il constate aujourd'hui, c'est que le président américain répond bien aux attentes de ses militants qu'il croise tous les jours.
La décision du président correspond à une promesse qu'il avait faite pendant sa campagne et c'est important pour les gens qu'il tienne ses promesses. Il y avait pas mal d'inquiétudes dans le parti sur le fait qu'il n'était pas fiable parce qu'il avait longtemps été un démocrate new-yorkais très éloigné des conservateurs. Mais il faut reconnaître qu'il a déjà fait beaucoup de choses et bien.
Alors, Matt Ames cite le retrait de l'accord de Paris, bien sûr, la nomination également d'un juge conservateur à la Cour suprême et l'ensemble du tout récent premier voyage à l'étranger du président américain. Cette ligne volontiers conflictuelle avec des alliés traditionnels convient parfaitement à sa base électorale. Écoutez par exemple de quelle manière Marilyn, supportrice inconditionnelle de Donald Trump, parle de ces Européens tellement ingrats.
J'en ai rien à foutre de l'Europe. Tout ce qu'ils devraient faire, c'est nous dire merci pour tout ce que nous avons fait pour eux. Merci de soutenir l'OTAN, merci pour les bases militaires installées depuis 1945. Les Européens font ce qu'ils veulent, on ne dit pas aux gens ce qu'ils doivent penser, ça n'est pas notre philosophie. Mais venez pas me dire que je dois quoi que ce soit à l'Europe qui ne paye pas ses 2% de contribution à l'OTAN avec Angela Merkel qui refuse de payer.
Vous le voyez, Michael, tout ça dépasse le strict cadre de l'accord sur le climat. C'est pour cela que Donald Trump retrouve sur beaucoup de sujets tous les accents de la campagne en ce moment. Et on l'a vu aujourd'hui encore avec un nouveau tweet insultant à l'égard du maire de Londres et avec son insistance à promouvoir son décret interdisant l'accès des États-Unis aux citoyens de 6 pays à majorité musulmane.
Et vous avez également suivi ce week-end deux manifestations différentes, Frédéric, pro-Trump d'un côté, anti de l'autre. Et point commun, dans les deux manifs, on a beaucoup parlé d'Emmanuel Macron.
Absolument, parce que vous imaginez bien que sa déclaration en anglais, son « Make our planet great again » directement adressé à Donald Trump et son invitation aux scientifiques américains à ne pas hésiter à venir poursuivre leurs travaux en France, tout cela a eu un réel écho ici. Alors dans la manifestation modeste en faveur du président américain devant la Maison Blanche, au pied de la statue de Lafayette, on a bien sûr sorti les pancartes « Pittsburgh, pas Paris » et Géraldine conseille au président français d'éviter de se lancer dans des comparaisons avec son homologue américain.
Il utilise ses termes, il utilise tous ses mots, mais n'ayez aucun doute, le leader c'est Donald Trump. Lui, ce n'est qu'une pâle copie.
Le ton, vous l'imaginez, est tout autre, à quelques pas de là, de l'autre côté des jardins de la Maison Blanche. Vous avez quelques milliers de personnes qui sont réunies pour une marche pour la vérité sur le climat, mais aussi sur l'enquête russe. Et pour Ben Kelgill, Emmanuel Macron est presque devenu un modèle.
J'ai une grande admiration pour le président Macron en ce moment. Il est devenu une figure importante sur la scène mondiale. Il se présente comme l'opposé de Donald Trump. Pas forcément l'opposant, mais l'opposé.
C'était frappant hein, dans ce rassemblement, Michael. Vous êtes un journaliste français, vous êtes interpellé immédiatement avant même de poser une question et vous avez des commentaires du genre de celui qu'on vient d'entendre.
Et on comprend bien, le grand rendez-vous de la semaine hein, pour Donald Trump, c'est bien sûr l'audition de l'ex-directeur du FBI, James Comey, devant la commission du renseignement du Sénat. Ce sera ce jeudi, Frédéric.
C'est vrai, et ça c'est sans doute l'audition devant une commission parlementaire qui suscite le plus d'intérêt depuis une vingtaine d'années aux États-Unis et toutes les chaînes de télévision américaines, absolument toutes, se préparent à la diffuser. Alors, il y a quand même une part d'incertitude, il faut l'évoquer. Légalement, Donald Trump peut en tant que président faire valoir ce que l'on appelle le privilège de l'exécutif pour empêcher James Comey de témoigner au nom de la nécessité de garder secret tant qu'il a à la Maison Blanche ses conversations avec un directeur du FBI. Mais il se trouve que James Comey est désormais un simple citoyen et la Maison Blanche fait savoir qu'a priori elle ne s'engagera pas dans cette voie, mais bon, on n'est que lundi, il reste 3 jours. Donc oui, témoignage capital, des proches de James Comey ont expliqué qu'il avait ressenti des pressions de la part de Donald Trump pour Jamie Raskin, élu démocrate du Maryland. Ce sera un moment de vérité.
J'espère qu'il va nous dire la vérité de ce qui s'est passé. Nous allons voir si le président a essayé d'arrêter l'investigation.
Vous avez confiance en James Comey ?
Oui, j'ai confiance en James Comey.
Alors James Comey ne pourra pas parler du fond du dossier russe, respect de la confidentialité de l'enquête, mais il pourra évoquer ses discussions avec Donald Trump et de nombreux républicains comme Harry Butter, responsable d'une association de jeunes du parti, lui font également confiance à cet ancien directeur du FBI.
Les États-Unis comptent plus que le parti et bien sûr le pays a plus de valeur que n'importe quel élu. James Comey est une des rares personnes à qui on peut faire confiance dans le gouvernement. Il ne se préoccupe pas de politique, il se soucie de la vérité et je serai de son côté quand il va témoigner. Alors s'il dit que Trump a fait pression sur lui, oui, je le croirai. Comey a une longue expérience dans l'administration. Trump, c'est sa première année et on ne sait pas à quoi s'attendre.
Voilà, rendez-vous jeudi à partir de 16h. Michael, ce sera une sorte de parole contre parole. Et James Comey a soigneusement préparé son témoignage, ce qu'il peut dire et ne pas dire aussi pour ne pas fragiliser l'enquête. Il en a parlé notamment avec Robert Mueller, le procureur spécial tout récemment désigné. Les deux hommes sont des proches et ils se sont succédés à la tête du FBI.
Et on vivra ça évidemment avec vous, Frédéric Carbone, en direct de Washington. Merci beaucoup. Dans moins de 2 minutes, l'édito d'Anthony Bélanger. Mais d'abord, Jay-Z, Empire State of Mind.
Yeah, I'm out at Brooklyn, now I'm down in Tribeca, right next to the Narrow, but I'll be hood forever, I'm the new Sinatra, and since I made it here, I can make it anywhere, yeah, they love me everywhere, I used to cop in Harlem, all of my Dominicanos, right there up on Broadway, pulled me back to that McDonald's, took it to my stash spot, 560 State Street, catch me in the kitchen like a Simmons whipping pastry, cruising down A Street, off-white Lexus, driving so slow, but BK is from Texas, me, I'm out that Bed-Stuy, home of that boy Biggie, now I live on Billboard, and I brought my boys with me, say what up to Tata, still sipping my top, sitting courtside, Knicks and Nets give me high five, nigga I be spiked out, I could trip a referee, tell by my attitude that I most definitely from
New York,
hey.
New York,
with OG at a Yankee game. Shit, I made the Yankee hat more famous than a Yankee king. You should know I bleed blue, but I ain't a crypto. But I got a gang of niggas walking with my click though. Welcome to the melting pot, corners where we selling rock. Africa been by the shit, home of the hip hop. Yellow cap, gypsy cap, dollar cap, holla back. For foreigners it ain't fair, they act like they forgot how to act. 8 million stories out there in the naked city. It's a pity half of y'all won't make it. Me, I got a plug special and I got it made. If Jesus paying LeBron, I'm paying Dwayne Wade. Three dice CeeLo, three card Marley. Labor Day parade, rest in peace Bob Marley. Statue of Liberty, long live the World Trade, long live the King. Yo, I'm from the Empire State. That's blinding. Girls need blinders so they could step out of bounds quick. The sidelines is blind with casualties who sip the life casually.
Empire State of Mind, Jay-Z.
France Inter, le 18-20. Un jour dans le monde.
18h54, l'heure de l'édito. Bonsoir Anthony Bélanger.
Bonsoir Mickaël, bonsoir à tous.
Et ce soir, Anthony, direction la Russie, où l'on a donc retrouvé un prisonnier de guerre japonais, non loin de Saint-Pétersbourg.
Oui, l'histoire est belle, hein, d'autant plus que l'homme en question est très âgé. Il a aujourd'hui 89 ans, il s'appelle Akio Tanaka. Il vit à 60 km de Saint-Pétersbourg, dans un petit village appelé Pogi. Et effectivement, cet homme est tout ce qu'il y a de plus japonais. Alors évidemment, la question est, que fait ce japonais de 89 ans au fin fond de la campagne russe, à 7600 km à vol d'oiseau de Tokyo? Eh bien en fait, Akio Tanaka fait partie des 600 000 prisonniers de guerre capturés par la Russie. C'est en 1945, c'était en Mandchourie. Je rappelle pour mémoire que l'URSS a déclenché son offensive contre le Japon, c'était le 8 août 45, c'est-à-dire deux jours après le largage de la bombe d'Hiroshima et la veille de celle de Nagasaki. L'URSS ne prenait donc pas grand risque et a vaincu très rapidement. Ces 600 000 prisonniers japonais, dont un dixième va mourir de mauvais traitements, de maladies et de faim, ont servi de travailleurs forcés des camps répartis dans toute l'Union soviétique et la plupart ont finalement été libérés entre 46 et 56.
Mais pas, visiblement pas notre japonais. Hein.
Oui, voilà, lui faisait partie ou fait partie, selon les japonais, du petit millier de prisonniers qui ont choisi, entre guillemets, de rester en URSS pour des raisons personnelles d'ailleurs, la plupart du temps, c'est-à-dire grosso modo qu'ils s'y sont mariés. Akio Tanaka a bien essayé de revoir le Japon, hein, mais les difficultés pour voyager à l'époque soviétique, puis l'âge l'en ont empêché. Aujourd'hui, il rêve tout de même de revoir son île natale d'Hokkaido. Il parle presque plus japonais d'ailleurs, et puis une avalanche d'articles dans la presse japonaise devrait, vous l'imaginez bien, l'y aider. Mais au-delà de son cas personnel, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est qu'elle illustre parfaitement les relations compliquées, voire conflictuelles, qui caractérisent les rapports de la Russie et du Japon. D'abord, jamais les deux pays n'ont signé de véritable traité de paix à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, juste une petite déclaration commune de 1956 qui justement règle définitivement le sort des derniers prisonniers de guerre.
Et si les deux pays n'ont jamais signé de traité de paix, Anthony, c'est notamment à cause des îles Kouriles.
Ah, les îles Kouriles, exactement. L'archipel des Kouriles est un groupe d'une quarantaine d'îles qui s'allongent, vous savez, de Hokkaido à la péninsule russe du Kamtchatka. Elles sont occupées depuis la fin de la guerre par la Russie et la moitié méridionale de ces îles, eh bien, est revendiquée par le Japon. Voilà pour la géopolitique. Régulièrement, des pourparlers ont donc lieu entre Moscou et Tokyo pour tenter de trouver un accord en vue d'une restitution. Non seulement les 17 000 habitants japonais des Kouriles ont été expulsés, c'était dans les années 50, mais la plus méridionale de ces îles, qui s'appelle Kanashiri, n'est qu'à 7 km d'Hokkaido, c'est-à-dire du Japon. Or, ces pourparlers sont systématiquement des échecs. Les derniers ont lieu pas plus tard qu'en décembre dernier. Le Japon s'est dit prêt à investir en Russie quelques 1000 milliards de yens, et la Russie en a bien besoin, ça fait 8 milliards d'euros, et ce dans l'économie russe, et puis rien. Comme d'habitude, Russes et Japonais sont repartis mauvais amis, mais en promettant bien sûr de se revoir bientôt. En fait, le contentieux des îles Kouriles est très important pour comprendre comment fonctionne le Kremlin et la diplomatie russe. Les îles Kouriles sont le tout premier conflit gelé de l'histoire moderne de la Russie. Alors un conflit gelé, c'est un conflit territorial entretenu artificiellement par les Russes qui n'a pas vocation à être résolu mais alimenté une sorte d'abcès de fixation, une sorte de pierre dans la chaussure diplomatique. Dans le... Dans le monde entier, la Russie en entretient quelques-uns de ses conflits gelés. Vous savez, la Transnistrie avec la Moldavie, à la frontière de l'Union européenne, l'Ossétie du Sud et l'Abkhazie avec la Géorgie, et le dernier, bien sûr, le Donbass et la Crimée avec l'Ukraine. L'idée est toujours la même et elle est redoutablement efficace. Mais y maintenir des troupes et des gouvernements fantoches et discuter de leur avenir pour les siècles des siècles afin de maintenir avec son voisin, remuant ou pas d'ailleurs, une tension permanente de basse intensité.
Anthony Bélanger, merci. Dans une vingtaine de minutes, le téléphone sonne sur les secrets d'une retraite heureuse. Près de 16 millions de Français sont aujourd'hui retraités et plus de 9 sur 10 se disent heureux. Alors quelle est donc leur recette, leur conseil? Ont-ils tous préparé ce changement de vie? Quels sont les écueils à éviter? Vos questions, vos commentaires dès maintenant au 01 45 24 7000 et sur internet franceinter.fr, Twitter, hashtag Telson. Et dans moins d'une minute, le journal de 19h.